C'est la fin du week-end, on est dimanche, il est 20h et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM et en streaming. Tout de suite, c'est votre émission mensuelle de critique d'exposition, Museum Side, en avant pour un tour du côté des musées.
On commence avec le mot du conte de Lautréamont, bon, comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection.
Museum Side.
Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais, en aucune façon un lieu de décor, et disons-le tout de suite, en aucune façon un musée.
Museum Side, c'est l'émission de critique d'art de Radio Campus Paris.
Vassili Kandinsky est exposé au troisième étage à côté de Malevitch, comme il se doit.
Ceci n'est pas un musée.
Ah, donc si je tombe Malevitch, pour Kandinsky, je brûle.
On parlera d'exposition, d'art.
Ce qui donne un art à une société, dit André Gide, c'est le besoin qu'elle en a, et non une compréhension plus ou moins grande.
On va se balader dans Paris, de musée en musée, toujours en compagnie d'un invité. Cette saison avec Museum Side, on vous emmène parcourir la capitale pour dénicher pour vous les expositions qui valent le coup d'œil ou celles qui au contraire sont un peu décevantes. Le principe chaque mois, deux expositions à l'affiche dans de grands musées parisiens sur lesquels nous débattons avec à chaque fois un invité spécialiste qui nous donne des clés de compréhension. Ce soir, pour notre troisième numéro déjà, et oui, nous recevons Sébastien Delau, conservateur, responsable du département des collections du Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne et commissaire de la magnifique exposition d'Etel Adnan à l'Institut du Monde Arabe. En deuxième partie d'émission, notre tour de table sera consacré à l'exposition « La peinture américaine des années 30, The Age of Anxiety », présentée jusqu'au 30 janvier au Musée de l'Orangerie. Et comme chaque mois, j'ai à mes côtés Agathe, ma co-intervieweuse et chroniqueuse. Salut Agathe.
Bonjour Florence.
Alors, dans quel musée oublié tu nous emmènes ?
Au musée des années 30 de la ville de Boulogne-Billancourt.
Intéressant. Marion, toi, bonjour. Tu as choisi de nous présenter une exposition d'un artiste très connu qui joue avec les mots au musée Mayol.
Oui, je vous parlerai de Ben.
Très bien.
Je comprends pas ce que je vois.
Et on commence l'émission avec la chronique de Marie-Hélène qui évolue. Ta chronique, oui. Et qui porte désormais sur la photo.
Tout à fait.
On a pour l'instant peu parlé d'exposition photo, à part dans nos coups de cœur, et chaque mois, tu vas dénicher pour nous l'exposition photo à aller voir.
Tout à fait, et aujourd'hui, je vais vous parler de Soulèvement, l'exposition qui est en ce moment au Jeu de Paume. Alors, elle est disponible jusqu'au 15 janvier, si ça vous intéresse. Des objets qui flottent dans les airs, des points levés vers le ciel, des scènes de conflits immortalisées, le mot soulèvement se décline sous toutes ses formes à travers l'exposition. Au fil des œuvres, la notion est définie en cinq parties, un peu comme dans une dissertation. Et cette rigueur n'est pas étonnante puisque le commissaire n'est autre que le célèbre philosophe et historien de l'art Georges Lydie Huberman. Au-delà de sa composition remarquable, la beauté de l'exposition se trouve dans la poésie de ces corps figés dans le temps. La photo de Gilles Caron, qui est aussi l'affiche de l'exposition, est d'ailleurs l'une de mes préférées. On y voit deux garçons de dos, probablement en train de jeter des pierres lors d'une manifestation anticatholique à Londonderry, qui s'est passé en 1969. Le geste est figé, mais ne perd pas de sa force, et on distingue au loin des passants dans un paysage un peu brumeux. Le soulèvement prend une forme politique, mais il est aussi décrit comme une force, celle d'imaginer, de se mouvoir, de se révolter. Les photographies deviennent plus sombres à mesure qu'on les découvre, et je pense par exemple à celle de la Commune de Paris ou des guerres civiles en fin d'exposition, lorsque le soulèvement devient une insurrection jusqu'à la mort. Le soulèvement s'exprime par les éléments déchaînés, par les gestes, par les mots, par les conflits, mais aussi par les désirs, ces forces intérieures qui nous poussent à agir et à franchir les murs. Et cette dernière partie fait écho à l'actualité et au sort des migrants en ce moment, notamment à travers l'œuvre de Maria Curcuta qui a filmé justement l'exil de ses familles. Et à travers Intermunich, Soulèvement, l'exposition met en relief la pluralité des interprétations et des œuvres. Donc comme je le disais tout à l'heure, vous avez jusqu'au 15 janvier pour venir les admirer.
Merci Marie-Hélène.
Vous, ce qui vous intéresse, c'est un monstre inquiétant ou...
Non, c'est pas aussi simple que ça.
Vous voulez le voir dans le tableau.
Pas forcément. Hein.
On connaît Etel Adnan plutôt pour ses poèmes et ses différents récits, roman, fiction. Je pense à Sitte Marie Rose, son texte le plus célèbre, écrit en 1977 sur la guerre civile au Liban, qui a reçu de nombreuses récompenses. Le voyage au Mont Tamalpaïs, en 1986, qui mêle texte et dessin. Ou encore Paris, When It's Naked, qui date de 1993 et qui nous propose une plongée dans Paris. On s'attend moins à découvrir ces huiles sur toile savoureuses, ces petits formats colorés et poétiques qu'on peut découvrir à l'Institut du Monde Arabe. La poétesse Etel Adnan, née en 1925 à Beyrouth, d'un père turco-syrien musulman et d'une mère grecque orthodoxe originaire de Smyrne. Elle choisit de partir pour la France étudier la philosophie à la Sorbonne quand elle a à peine 24 ans. Puis, elle arrive aux États-Unis en 1955 pour poursuivre ses études à Harvard et à Berkeley. Elle enseignera pendant quelques années la philosophie et repart à Beyrouth en 1972 pour 4 ans où elle sera éditrice. Très engagée notamment contre la guerre au Vietnam ou encore pour l'indépendance de l'Algérie, elle commence à allier l'écriture à la création artistique, notamment picturale. Elle vit actuellement à Paris, mais ses origines et ses nombreux voyages ont influencé toutes ses œuvres quand ils n'en ont pas été le sujet. L'Institut du Monde Arabe propose de découvrir ou de redécouvrir des œuvres d'Etel Adnan, huiles sur toile, tapisseries, dessins à l'encre de Chine, dont certaines inédites dans cette très belle exposition qui est la première personnelle de l'artiste en France. Et ce soir, nous recevons Sébastien Delot, conservateur responsable du département des collections du Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, qui est le commissaire de cette exposition. Bonsoir Sébastien Delot.
Bonsoir.
Et tout de suite, on va écouter un texte.
Alors, un court extrait pour faire écho justement à la dimension littéraire et absolument centrale dans l'œuvre d'Etel Adnan. Donc ce court extrait. Que faire pour sortir du cercle de mort qui entoure le Moyen-Orient? J'ai cru un moment que la solution était révolutionnaire et militaire. Mais la guerre civile au Liban m'a convaincu que les guerres font plus ajouter de nouveaux malheurs que résoudre des conflits. J'ai commencé à désirer la paix, la désirer fortement. C'est alors que la question s'est posée. Quelle paix? Que va vouloir dire cette paix? J'ai compris que cette paix doit vouloir dire accepter l'autre. L'ennemi qui est devenu au cours du temps réalité et mythe, corps et image. Dans ce cas particulier, cela voudra dire aller chez l'autre et le laisser venir, l'accueillir, ultimement en faire un ami.
Et justement, vous commencez l'exposition par l'Apocalypse arabe. Poésie monumentale d'Etel Adnan, qui est affichée sur les murs et lue en anglais, en arabe et en français, par trois voix, dont celle d'Etel Adnan pour la version anglaise. Et vous revenez donc finalement à la base, à l'écriture. Est-ce que tout découle de l'écriture? Enfin oui, tout découle de l'écriture pour Etel Adnan.
Alors, tout d'abord, il est vrai que récemment, Etel a bénéficié d'un certain nombre d'expositions. Mais rarement, cette dimension engagée, son rapport à l'écriture, qui est malgré tout central et fondateur, était évoqué. Donc il me semblait absolument essentiel de revenir sur ses premiers pas, et au-delà même des premiers pas, sur quelque chose qui constitue un fil de vie, une forme de tapisserie tout au long de sa vie, à savoir son rapport à l'écriture. Il est vrai que ce texte, l'Apocalypse arabe, est particulièrement saisissant, car aujourd'hui encore, et malheureusement, l'actualité tous les jours, que cela soit en Syrie, que cela soit en Irak, que cela soit maintenant en Turquie, toutes les zones justement touchées par le Moyen-Orient et finalement la dissolution de cet empire ottoman, on en vit les soubresauts au quotidien en Europe, aux États-Unis, de par le monde, pas uniquement justement dans un rapport que occidental ou Orient. C'est quelque chose finalement qui est en train de façonner et retransformer le monde dans lequel on évolue. Donc l'œuvre d'Etel prend une dimension encore plus actuelle, encore plus puissante et même presque prémonitoire dans une certaine mesure. Car si ce texte évoque bien entendu la guerre du Liban, la guerre civile du Liban et toutes ces tragédies qui sont associées aux camps de réfugiés palestiniens, il n'est pas compliqué d'imaginer que ces camps de réfugiés palestiniens pourraient être aujourd'hui envisagés comme des camps de Syriens. Il suffit même de se balader à Paris, à Jaurès, pour bien voir ce qu'il en est, cette actualité.
Et vous avez voulu donc qu'il soit lu pour que ça berce un peu le visiteur?
Alors, j'ai voulu qu'on retrouve cette dimension justement sonore, à savoir qu'un tapuscrit présenté au mur. Et ce qui est très beau, c'est que ce texte, donc tapé à la machine, donc ce tapuscrit, il est ponctué de différents signes, différentes intonations, différents petits dessins, comme une partition musicale qui rythme tout au long du texte la manière dont ce texte doit être lu. Un peu finalement les silences, les accentuations avec des petits soleils rouges, des signes assez étonnants, un peu comme de la calligraphie qui vient se superposer à ce texte en anglais. Mais malgré tout, pour le visiteur, cela peut sembler un petit peu aride. Et bien entendu, personne ne va lire le texte dans sa totalité, à moins que vous précipitiez à la sortie acheter l'ouvrage en français, en arabe ou en anglais. Mais justement, en opérant cette possibilité de lire le texte, c'était de replonger le visiteur immédiatement dans ce rapport à l'écriture, cette sensualité aussi de la poésie, ce côté cru, fort et complètement déroutant de la poésie d'Etel Adnan, qui est une poésie extrêmement, par moments, extrêmement violente, saisissante dans ses images et poétique. Et aussi, bien entendu, le fait d'être dans les trois langues. On est à l'Institut du Monde Arabe. Le Liban est fondé sur, justement, à la fois le rapport multiculturel et puis aussi cette coexistence des différentes langues qui sont peut-être finalement aussi à l'origine d'une nouvelle Babel que l'on peut rencontrer aujourd'hui.
Agathe.
D'ailleurs, on a le sentiment, visitant l'exposition, que tout son travail s'ancre dans une géographie assez importante, qu'elle soit personnelle ou mondiale.
Tout à fait, je dirais que Etel est une profonde humaniste et elle est complètement héritière de cette culture. Comme vous l'avez d'ailleurs très justement rappelé en introduction, le père d'Etel d'origine syrienne va grandir puisqu'il est né en 1880. Donc Etel, c'est aussi un pont de l'histoire et on a cette chance inouïe d'avoir encore ce maillon de l'histoire, ce maillon qui nous permet de comprendre finalement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, à savoir effectivement donc ce père qui a été camarade de classe de Kemal Atatürk en Turquie, puisqu'il était officier de l'Empire ottoman. Et justement, toute cette complexité, c'est-à-dire que Etel explique très bien, son père était donc arabe, syrien, faisant partie de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman offrait une forme de maelstrom dans lequel différentes communautés pouvaient cohabiter et coexister. À partir du moment où l'Empire se dissout, elle devient, enfin ses parents, puisque sa mère, elle, est grecque, chrétienne, et donc c'est un couple mixte, comme on dirait aujourd'hui, ils sont vus de chacun par leur communauté comme étant des traîtres. D'un côté, son père n'est pas vraiment un arabe comme il faut puisqu'il est marié à une chrétienne. Et d'un autre côté, cette chrétienne n'est pas véritablement une chrétienne comme il faut puisqu'elle est mariée à un musulman. Donc comment exister dans ce monde qui se redéfinit et où finalement ce rapport à la tolérance évolue vers tout à fait autre chose?
Alors, quand elle vit aux États-Unis dans les années 50, elle se décrit d'abord comme peintre plutôt que poète. Elle est d'ailleurs prof d'esthétique dans un collège au nord de San Francisco. Vous me reprendrez si c'est faux ce que je dis. Et pourtant, on ne connaîtra ses œuvres qu'à la Documenta de Cassel en 2012. Enfin, c'est là qu'il y a eu quand même une explosion. Enfin, qu'on a vraiment découvert, c'est en tout cas moi.
Alors... mon idée n'est absolument pas de reprendre ni de jouer au professeur. Ce n'est pas
oui,
du
non,
tout.
Mais...
Non, mais je... c'est pour mettre tous nos auditeurs à l'aise. Mais c'est effectivement plusieurs choses. Etel est partie au tournant des années 50 aux États-Unis et elle-même finalement le dit avec beaucoup d'humour. Elle n'en revient pas finalement avec beaucoup d'espièglerie, car quand elle est partie aux États-Unis, elle parlait très mal anglais ou à peine anglais. Et Bachelard a notamment fait une lettre de recommandation, elle est partie. Donc c'est ça aussi, je dirais que c'est ce rapport presque comme une héroïne de roman. Et elle le dit d'ailleurs très bien, souvent les gens sont fascinés et à la fois aussi dans une fascination-répulsion pour ces personnages de la vie réelle ou ces personnages de roman qui sont amenée à avoir des destins un peu hors du commun. Et elle incarne parfaitement, je dirais, ce type de personnage.
Elle a une vie incroyable.
incroyable, sa vie complètement incroyable. Et chaque histoire est-elle, c'est aussi ce parfum du Moyen-Orient. Une histoire amène vers une autre histoire qui amène vers une autre histoire. La dernière fois où je l'ai rencontrée, elle me parlait de Calamity Jane et d'un projet qu'elle avait eu avec Delphine Seyrig, donc qui avait retrouvé des archives de Calamity Jane. Bon, bien sûr, ce n'est pas présent dans l'exposition. Vous m'avez vous-même confié que vous auriez souhaité une grande exposition.
Ah bah oui.
Sans doute, un jour, une institution lui proposera un espace à la mesure de son œuvre et de sa personnalité hors du commun.
Mais du coup, comment ça se fait qu'elle se définisse plutôt... Enfin, moi, j'avais lu qu'elle se définissait à un moment plutôt peintre que poète.
Alors en fait, si vous voulez, je crois que le rapport fondamental, effectivement, plusieurs choses. Je crois que beaucoup de choses l'ont fascinée. Après, ça serait à Ethel, bien entendu, de répondre le plus justement. Moi, ce que j'en ai perçu, c'est que, bien entendu, par exemple, quelqu'un comme Victor Hugo l'a beaucoup fasciné, ce rapport justement entre le dessin et l'écriture. D'ailleurs, elle a été invitée à un moment donné dans une exposition où des dessins d'artistes étaient montrés au voisinage de leurs écrits, et ça, c'est quelque chose qui l'avait profondément touché et marqué. Et je pense qu'aussi, c'est un rapport extrêmement fort de la culture française, notamment. Alors, son rapport à la poésie... il est né dans un contexte tout à fait différent, dans un contexte activiste de la fin des années 50, début des années 60 aux États-Unis, côte ouest, où finalement la guerre du Vietnam, la guerre de Corée bouleversent complètement les équilibres à l'après-guerre, et elle se retrouve par la force des choses engagée dans un combat que l'écriture lui permettra. Et justement, vous avez évoqué également au début de cette émission le fait que la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance pour l'Algérie, ou ce qu'on a appelé pudiquement ou même hypocritement les événements d'Algérie en France, marque quelque part une rupture pour Ethel. Puisque pour Ethel, cette idée de la langue française, de l'universalité, du rapport de respect aux valeurs des uns et des autres et des peuples, est complètement bafouée, voire saccagée, à partir du moment où on fait part, où on comprend, où on lit dans la presse ce qui est en train de se dérouler et le théâtre du drame qui est en train de se jouer. Et là, elle est en profonde rupture, elle enseigne en anglais, elle écrit jusqu'alors en français, et elle prend une décision politique engagée de se mettre à écrire en anglais pour marquer une forme de distance. Et elle dira que en rencontrant justement dans son collège cette personne qui est chef de département de Beaux-Arts, elle dira « j'allais arrêter d'écrire en français et j'allais peindre en arabe ». Et ça, c'est quelque chose de très fort, c'est une véritable rupture au début des années 60.
D'accord. Alors, pour en revenir à l'exposition, vous l'avez organisée en 4 sections. Et dès la deuxième, on voit apparaître un des motifs récurrents de l'œuvre d'Ethel Adnan, dont elle a fait d'ailleurs un livre, « Le Mont Tamalpaïs ». Et finalement, dans la lignée d'un Cézanne avec sa Sainte Victoire, elle peint inlassablement cette montagne en Californie. Qu'est-ce qu'elle représente pour elle, cette montagne ?
Sans doute la quête. À savoir que ce qu'il faut voir, c'est que le mont Tamalpaïs, effectivement, souvent on a parlé comme du mont Fuji pour Hokusai ou pour la Sainte Victoire, effectivement, pour Cézanne. Mais d'ailleurs, dans cette section, il y a des images de montagnes qui correspondent au mont Tamalpaïs, à ces changements de saison. On aura l'occasion d'en discuter. Mais ce n'est pas non plus une localisation fixe. Ce sont les montagnes. Et c'est ce rapport, justement, et d'ailleurs, ce qui est intéressant quand on va à Beyrouth, on est coincé entre la mer et la montagne. Et ce rapport entre, d'ailleurs, cette très grande peinture qui est une œuvre exceptionnelle d'Ethel, puisqu'il n'existe que 3 peintures de cette grande taille qui datent de 1974, représente l'Irak. Donc on n'est pas uniquement, on est vraiment dans les montagnes et dans cette représentation que Ethel se fait, même si le mont Tamalpaïs, qu'elle va observer tous les jours de sa fenêtre quand elle habitera en Californie, vers Sausalito, donc dans l'autre partie de la baie de San Francisco, la marquera tout à fait durablement.
Vous parlez du Tigre de Bagdad, la grande peinture. D'accord. Agathe.
Cet intérêt justement sur les phénomènes géologiques lui donne une autre temporalité en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on voit changer avec les différentes saisons, mais ça reste effectivement quelque chose qui ne va pas bouger, comme un point d'ancrage aussi dans une certaine géographie qu'on peut retrouver ailleurs. Et moi, j'ai trouvé ça particulièrement beau et intéressant.
Tout à fait, je dirais que ce qui est assez saisissant dans la peinture d'Etel, c'est qu'il n'y a pas de représentation humaine. On est complètement dans un rapport au paysage qui frôle l'abstraction, on va dire, mais on reste toujours dans une forme de figuration malgré tout, et on est dans la couleur pure, on est dans le rapport au monde, et ça c'est quelque chose d'extrêmement vibrant. On est dans des à la fois, c'est ce qui est surprenant, notamment dans ces petits tableaux ou ces tableaux déjà plus importants comme ce grand tableau de 74, on est vraiment dans la vibration colorée pure, mais pour autant ce n'est pas uniquement une coloriste, et c'est ça qui est important quand on regarde l'œuvre d'Etel, c'est que ces œuvres qui sont extrêmement concises, extrêmement simples, même presque mal peintes parfois, sont d'une grande force et d'une puissance qui va bien au-delà du sujet. C'est des œuvres qui irradient et qui vraiment ne nous quittent pas une fois qu'on les a vues.
Mais elles sont très construites, non ? Parce que ça se tient quand même.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et puis elle arrive à faire la montagne en trois traits. Parfois, c'est trois traits dans la série des vues de montagne, justement.
Mais je crois que vous relevez quelque chose, en fait, d'assez central chez Etel Adnan. C'est que tant dans sa peinture que dans son écriture, il y a un rapport d'efficacité qui se joue. Et ce rapport d'efficacité, on le retrouve dans la manière dont elle l'écrit. Ses mots sont concis, simples, percutants, forts et sans chichi, je dirais, avec quelque chose de l'ordre de l'intemporalité. Et finalement, cette intemporalité, on la retrouve à tout point de vue, car elle exprime les choses aussi avec beaucoup de pudeur.
Qui n'est pas un manque d'économie, à l'inverse, alors, parce qu'elle utilise des couleurs aussi, des variations de couleurs.
Tout à fait. Non, tout à fait. Elle va vraiment jouer. Oui, ouais. Et puis aussi, on est dans des assemblages de couleurs extrêmement étonnants, parfois des couleurs sourdes. On n'imaginerait pas un marron côtoyer un violet et avoir une telle efficacité visuelle sans se mélanger. On est vraiment dans des harmonies comme si on se retrouvait dans finalement un rapport presque musical.
Oui, inattendu.
Tout à fait.
Alors, on voit ensuite, si on avance dans l'exposition, on voit ensuite la série. Bon, tout est merveilleux dans cette exposition, mais...
Vous allez me faire rougir, hein. Je parle même pas d'Etel.
Alors, on continue dans un autre univers, c'est la série des vues de Paris, From Jim's Window, donc de la fenêtre de Jim, et des vues de New York, de la fenêtre de Laura. Mm-hmm. La fenêtre, c'est un topos en histoire de l'art. D'ailleurs, la scénographie s'est faite en fenêtre. Et je pense à la fenêtre de Matisse. Est-ce que finalement, Etel Adnan, entre la montagne, la fenêtre, revisite consciemment ou inconsciemment l'histoire de l'art ? Ou est-ce que c'est...
Je pense que Etel Adnan a une forte conscience de l'histoire de l'art. Elle est extrêmement cultivée. Donc elle a parfaitement connaissance des codes. De là à revisiter l'histoire de l'art, je pense qu'elle vous dira qu'elle n'a pas cette prétention. Oui. Et je crois que ce qui était important, d'ailleurs je voulais exprimer hors émission, c'est vrai que l'espace n'est pas un espace lumineux, à la différence de la peinture d'Etel et de l'œuvre d'Etel, qui est une œuvre solaire lumineuse. Et il m'a semblé absolument indispensable de créer une scénographie grâce à la complicité de Maciek Fischer, notamment, on a beaucoup échangé, pour recréer cette dimension, ces traverses, créer des points de vue, être en mesure de sentir comme ça cet espace et d'oublier finalement qu'on n'était pas dans un espace lumineux parce qu'on a ramené la lumière au cœur de l'exposition.
Moi, j'avais une question au sujet de la verticalité dans son œuvre. Vous exposez aussi, par exemple, donc, toutes ces vues de New York qui sont faites sur papier Japon un peu en hauteur. On sent quand même des peintures exposées pour être exposées sur un mur. Or, j'ai vu une photographie où on a l'impression qu'elle est peinte à l'horizontale. Je voulais vous demander comment... Ce rapport changeait et comment elle peignait, si vous l'avez vu.
Oui, tout à fait. Alors, déjà...
Elle peignait comme elle écrivait.
Un peu. Alors déjà, effectivement, dans la section sur les exils, les villes ou ces villes-mondes qu'Etel a traversées ou avec lesquelles elle a entretenu un lien à un moment donné de sa vie, ce ne sont pas des peintures, mais ce sont bien des dessins et des dessins à l'encre de Chine ou des aquarelles. Donc on n'est pas dans le rapport à la peinture et c'est pour ça aussi que c'était intéressant de les présenter avec ces Leporello, ces grands livres qui, une fois repliés, ont un format presque pocket pour certains. Et qui ont une certaine modestie, mais une fois déployés dans l'espace, peuvent aller jusqu'à 4 ou 5 mètres de long et prennent une dimension absolument monumentale, comme une tapisserie de papier envahirait l'espace avec une force, une puissance et aussi tout un vocabulaire qui évolue d'une œuvre à l'autre avec une grande force, une grande puissance. Est-elle, oui, peint à son bureau, assise, pour des raisons assez pragmatiques, parce que c'est quelqu'un qui a mal au dos et qui a eu, il y a maintenant des années, un accident au courant des années 80, qui lui l'ont quelque part limité dans sa capacité gestuelle. C'est pour ça que cette grande peinture de 74 est exceptionnelle, parce qu'elle avait le projet d'en faire d'autres, mais que forcément il y a un rapport de matérialité et quelque chose d'ordre du physique extrêmement important, et qu'elle n'était plus en capacité de mener. C'est pour ça qu'aussi la question du format s'est jouée de manière pragmatique, et qu'elle a réinventé son vocabulaire, et que c'est les Porello aussi également qui sont à la fois extrêmement émouvants et qui prennent des dimensions tout à fait colossales, puissent être réalisés sur de petites surfaces.
Alors dans la dernière salle, vous avez présenté 4 tapisseries. Avec Agathe, ça nous a époustouflé, mais bon, comme le reste de l'exposition. Allez voir cette exposition.
Vous voulez partir avec.
Oui, c'est ça. Agathe m'a demandé ce qu'on peut lui demander ou qui contacter pour acheter une des tapisseries.
On va faire des économies avant.
Et donc ces tapisseries, elles sont merveilleuses parce qu'elles sont abstraites, parce qu'elles montrent encore un nouveau pan de la création des Tel Adnan qu'on ne connaissait pas du tout. Et est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Pourquoi elle a voulu expérimenter ce matériau-là?
Alors la tapisserie, en fait, est quelque chose qu'elle a découvert véritablement dans les années 60. Bien entendu, elle a fréquenté les musées, donc elle connaissait bien sûr toutes les tapisseries occidentales. Le rapport aussi au tapis dans la culture arabe est tout à fait différent. Le tapis, c'est un lieu de convivialité dans la maison, lieu aussi pour la prière. Ça a un statut tout à fait autre, et aussi un rapport au luxe, à l'élégance. C'est pour ça qu'on a aussi ces mouches à rabier dans les maisons, pour pas que toutes les tissus soient complètement brûlés par le soleil. Donc c'est aussi lié, je dirais, à la culture, enfin, qui est forcément induite par les éléments extérieurs, le soleil, la vie, telle qu'elle est dans ces pays. Par ailleurs, Ethel, en fait, a été marquée par deux grandes expériences. Elle a été marquée par sa rencontre avec Ida Gray en Californie, qui donnait des cours de tapisserie avec des laines naturelles, et qui avait élaboré toute une théorie aussi sur la tapisserie et sur la question du tissage, de remettre en pratique un certain nombre de formules qui avaient été oubliées ou vues comme peut-être archaïques, et qu'elle a complètement redéployer et imaginer un certain nombre de motifs. Ethel, en fait, avait réalisé dans les années 60 toute une série de dessins en vue d'opérer à un moment donné des tapisseries. Or, elle n'en avait pas eu les moyens financiers, et elle avait essayé, tenté des expériences, notamment en Turquie, et qui n'ont pas été satisfaisantes, ni une fois aussi en Tunisie et Maroc. Et ces expériences, elle ne les a pas menées parce que le résultat ne lui a pas convenu. Et elle a découvert aussi, à l'occasion d'un voyage en Égypte, avec Wissa Ouassef, au Caire, où elle découvre finalement cette expérience de la tapisserie, une tapisserie assez naïve, où elle, à un moment donné, elle a un temps le projet de réaliser un documentaire qui malheureusement ne se fera pas, et qui est pour elle une véritable révélation. Elle dira que ces deux grandes rencontres vont complètement sceller son rapport à la tapisserie.
Agathe ?
Oui, moi j'avais une dernière question concernant justement la tapisserie. Les Porello, on voit que c'est une artiste qui travaille la bidimensionnalité et qui va vers quelque part la trois dimensions. Et je voulais vous demander si elle allait, si vous la voyez aller vers la pratique de la sculpture ou...
Non, la sculpture, clairement pas. Je ne crois pas. Déjà, il y a un rapport très physique à la sculpture, ce qui est sans doute quelque chose d'assez complexe aujourd'hui à mener. Il faut dire que c'est sans doute intéressant car sa compagne, Simone Fatal, est sculpteur. Donc il y a probablement des échanges absolument passionnants entre elles sur un certain nombre d'enjeux que vous soulevez. mais je ne crois pas qu'Ethel se dirigera vers cette voie. Ce que je souhaite également partager avec vos auditeurs, c'est que dans cette exposition, en tout cas je vous remercie pour les compliments que vous avez en tout cas partagés, il y a des pièces vraiment exceptionnelles, à savoir il y a le tout premier Leporello qu'Ethel a réalisé en 63, qui est la traduction d'un poème de Wendell Berry, poète américain, qui est écrit à la suite de l'assassinat de Kennedy. Donc ça, c'est le tout premier Leporello d'Ethel. Vous avez également, évidemment, ces vues de New York, ces vues de Paris, cette vue de Beyrouth aussi, où on ne voit absolument pas la ville, mais on ne voit que la mer comme point d'échappée, finalement. On se retrouve dans une diversité de formes, de vocabulaire, que ce soit de la calligraphie, de l'image pure. On a véritablement un parcours certes très elliptique, car l'espace n'est pas immense, mais qui permet d'appréhender et d'apprécier toute la complexité, la diversité des formes qu'Ethel nous propose.
Et qui donne envie d'ailleurs d'en voir encore plus. Merci beaucoup, Sébastien Delot, pour avoir accepté notre invitation.
Merci.
L'exposition d'Ethel Annan est à voir à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 1er janvier 2017. Et courez-y vraiment. Et tout de suite, on écoute Brain Dead de Gloria. Brain Dead de Gloria. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris sur le 93.9 FM et en streaming, et vous écoutez Museum Side, votre émission de critique d'exposition. Et c'est l'heure de ta chronique, Agathe, et pourquoi pas les collections permanentes.
Du musée des années 30, de la ville de Boulogne-Billancourt, qui se trouve dans l'espace multimédia, Paul Landowski, qui est évidemment, comme vous le savez certainement, le célèbre sculpteur français, auteur du Christ de Rio de Janeiro, et qui est bien connu aussi des Parisiens pour sa statue de Sainte-Geneviève, qui veille sur Paris du pont de la Tournelle depuis 1928 déjà.
D'accord.
Donc c'est un musée en fait qui rassemble les œuvres produites dans l'entre-deux-guerres, pour la plupart figuratives d'ailleurs, et on parcourt les collections qui sont classées thématiquement en montant jusqu'au dernier étage et finalement après en descendant au fur et à mesure, étage par étage. Alors les œuvres qui sont présentées sont mises en valeur à travers des petites scénettes qui incorporent peinture, sculpture et mobilier. Ce qui retient d'ailleurs particulièrement l'attention, ce sont ces grands ensembles mobiliers des artistes décorateurs de l'époque Art déco, vous savez, aux lignes simples et épurées en comparaison avec celles de l'Art nouveau. Et c'est un mobilier qui met en avant aussi la beauté des bois naturels, enfin des matériaux, des bois exotiques que sont aussi faits de lacs, qui sont faits d'ivoire avec des incrustations de parchemin ou de galucha.
Qu'est-ce que c'est les galucha?
C'est de la peau de raie.
D'accord.
Donc il y a aussi des très belles maquettes architecturales de Mallet Stevens et du Corbusier. Alors, une singularité parmi ces collections, c'est au premier étage où on trouve des productions artistiques, des artistes qui ont voyagé dans les colonies françaises pendant l'entre-deux-guerres. Alors, ce sont des œuvres assez variées, pour la plupart assez spectaculaires aussi, qui répondent sans doute d'ailleurs à la quête d'exotisme de cette époque. Ce sont des portraits peints, sculptés, polychromes, des paysages, voire même des allégories de la colonisation. Et oui, comme celles qui figurent à la Cité de l'Immigration. On pourrait dire autant d'œuvres exposées à l'époque de leur création dans les salons des artistes coloniaux, autant d'artistes membres de la Société coloniale des artistes français, sur lesquels il serait d'ailleurs assez intéressant de s'arrêter pour étudier leur démarche, comprendre leur motivation en fait, et évidemment surtout déconstruire les stéréotypes raciaux que les œuvres véhiculent.
Which way do we go?
Pardon me. That way is a very nice way.
Who said that?
29 octobre 1929. La vie des Américains et du continent européen bascule après la chute de la bourse de New York, entraînant la plus grosse crise économique du XXe siècle. S'ouvre alors une époque noire, appelée la Grande Dépression, pendant laquelle le chômage et la pauvreté explosent. Elle ne prendra fin qu'avec le début de la Seconde Guerre mondiale. L'exposition « La peinture américaine des années 30 »,« The Age of Anxiety » au musée de l'Orangerie, porte un nom évocateur. Elle s'intéresse à cette période sombre qui oblige les artistes à repenser un art national, qui redonnera de la grandeur à cet état déchu. Et ce que vous entendez derrière moi, en fond sonore, c'est donc la BO du Magicien d'Oz, qui est donc le film des années 30 et de l'âge d'or du cinéma américain, malgré la Grande Dépression. Et la scène américaine va se scinder entre les partisans d'un art réaliste, qui montre la gloire des industries du pays, et ceux plutôt en faveur d'un art abstrait, considéré comme universel. Alors, moi je suis un peu restée sur ma forme, mais en fait il faut savoir que, voilà, il y a seulement 6 salles au musée de l'Orangerie. On en veut plus, mais l'exposition est construite en deux parties. Il faut aller à Londres, à la Royal Academy of Arts, pour voir les années 50 et le début de l'expressionnisme abstrait incarné par Pollock, dont une des toiles clôt le parcours au musée de l'Orangerie. Alors, dans cette exposition, en tout cas dans les premières salles, on est plutôt face à un art réaliste et parfois militant, comme le portrait d'un syndicaliste communiste, Pat Wallen, peint par Alice Neal, qui ouvre la deuxième salle. Toi, je crois qu'Agathe, justement, donc c'est pas la première salle introductive, avec notamment un tableau de Georgia O'Keeffe, qui est assez étonnant, mais c'est la deuxième salle que tu as trouvée intéressante, qui t'a interpellée.
Oui, parce qu'on connaît très bien le American Gothic, la peinture de Wood, Grant Wood, qui est exposée dans cette petite salle introductive et qui est là pour la première fois d'ailleurs à Paris.
Oui, c'est d'ailleurs le tube de l'expo. Tout le monde est planté devant ce... Qui est connu parce qu'il était dans le générique de Desperate Housewives.
Aussi, c'est vrai.
Je suis désolée, mais c'est vrai. Le fermier avec la fourche.
Voilà, c'est une toile icône de la peinture américaine.
Complètement, mais moi j'avoue que je l'ai découvert dans le générique de Desperate Housewives.
Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup apprécié cette donc, seconde salle dans le parcours où on a notamment des œuvres de Charles Schiller qui sont assez étonnantes, qui montrent en fait des grandes machines, des grandes intérieures aussi ou extérieures d'usines. Et on a l'impression en fait que vraiment, étant donné qu'il y a très peu de présentations, enfin de représentations d'humains, on a vraiment l'impression que c'est la machine qui prend le dessus par rapport à l'homme. Et ça m'a fait beaucoup penser notamment à la peinture allemande de l'entre-deux-guerres en fait. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant, d'autant plus que quand on regarde ces œuvres, on a vraiment l'impression que les peintres ont réfléchi en termes d'image et sont décrochés un peu, si vous voulez, de la représentation aussi de la peinture telle qu'elle. Parce qu'on a des détails qui ne sont pas forcément gardés, mais on met une attention sur des motifs peints d'une façon très réaliste.
Oui, bah ça devient carrément, moi je pense à un des tableaux, ça devient presque cubiste. Enfin, on reconnaît presque dans un des tableaux qui représente justement une maison, et je me demande si c'est pas un moulin ou une usine. Ça devient complètement, presque abstrait dans la figuration. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
En tout cas, ce qui est assez bluffant dans toute cette première salle, c'est qu'on a un choix de faire en sorte que le motif va remplir toute la toile. Et ça, sur toute la salle. Et aussi, pour certains artistes, de garder une ligne d'horizon très haute sur le tableau, notamment pour les paysages, qui va permettre de rabattre en fait tous les motifs du premier plan vers le spectateur et qui va l'incorporer d'autant mieux en fait dans la peinture. Donc on a quelque chose d'immersif presque dans toutes ces œuvres, ce qui est assez, très intéressant.
Et après les paysages industriels, en plus au fond de la salle, on a les
paysages ruraux.
Les paysages ruraux, et d'ailleurs dans le catalogue, je crois que Judith A. Barter appelle ça la pastorale de la prairie.
Oui, donc c'est essentiellement en fait des paysages du Middle West qui sont représentés, mais avec évidemment une interprétation qui est toute personnelle au peintre. Hein. On n'a pas du tout de représentation de la même, enfin de représentation telle quelle en fait des paysages. Là, on est aussi beaucoup dans l'allégorie ou dans.
Et puis ça participe de cette donc on est en pleine dépression. Ça participe de cette espèce de mise en avant de l'art américain par on met en avant les industries ou on met en avant les campagnes, les savoir-faire. Par exemple, moi, je pense... Bon, mon gros coup de cœur de l'expo, c'est Grant Wood, donc avec le American Gothic, mais je trouve que ce n'est pas le plus intéressant. Mais donc, dans le fond de cette première salle, avec justement ces tableaux donc de prairies, de campagnes, et aussi, il me semble qu'un des tableaux de Grant Wood, c'est le labour. Il montre des tracteurs, etc. Donc, les différentes saisons aussi, les différentes travaux dans les champs, je trouve ça incroyable parce que il arrive, ça fait très très BD ou dessin de livres d'enfants parce qu'on a une espèce de perspective complètement justement pas aplatie,
en fait,
mais ouais.
Et c'est ça qui est assez bluffant, c'est qu'il y a une synthèse en quelque sorte de tous les motifs avec le choix d'une économie visuelle en fait, c'est-à-dire que tout est délibérément peint de façon à ce que ça ressorte et directement visuellement et que ça soit évidemment qu'il y a un impact en fait fort. Et ça, c'est très intéressant de voir que il montre bien que la peinture n'est pas mimésis et pas représentation directe de l'objet présenté, mais au contraire qu'il y a ce travail du peintre pour présenter en tant que symbole en fait, regarder les caractéristiques primordiales. Et après dans le labour tout ça, il y a un corps de femme notamment qui s'étend et on a donc d'autres suggestions.
Oui, c'est ça, parce que la perspective classique n'est pas du tout respectée. Moi, je pense qu'il y a un arbre très grand devant, les lignes d'horizon sont pas toujours le but, c'est vraiment de mettre en avant certains éléments, comme tu l'as très bien dit, ou de montrer quand même des petits personnages.
Et là,
mais qui
on
va être
a
tout
la
petit.
Main du peintre en fait qui se remontre
complètement. Alors après, si on continue un petit peu donc sur ces six salles, après cette salle là on a la salle qui met en avant un peu tout ce qui est spectacle dans ces années là aussi, avec un tableau d'Hopper, je pense, où il a peint sa femme dessus dans une salle de cinéma.
Oui, et c'est marrant parce qu'on a l'impression que elles ont été conçues en pendant, évidemment, parce que aussi bien on a un manque total d'humains dans la donc deuxième salle dont on parlait après la salle introductive, alors que dans la troisième salle, on a un surplus dans ces représentations de la ville de foule, en fait, vraiment humaine. Et ça, c'est très intéressant de voir cette démultiplication du caractère humain dans les
On en est presque oppressé. Ça m'a presque oppressé. Et toi, Marie-Hélène, du coup, il y a un tableau qui t'a particulièrement marqué dans cette salle-là.
Alors oui, il s'agit du tableau qui s'appelle « Marathon de danse » de Philip Evergood. Donc c'est un artiste et écrivain américain. Et donc il a été peint en 1934, c'est une huile sur toile. Et donc j'ai été assez fascinée par ce tableau parce que, comme tu disais, on passe d'un espace plutôt vide, la présence d'humain n'est pas là en fait, à un moment où on est un peu étouffé par cette foule compacte. Moi de loin, j'ai cru voir presque un tableau de représentation de cirque en fait, avec tous ces danseurs sur la piste. Donc comme tu disais, c'est à l'époque où le tableau est peint, les Américains sont dans la Grande Dépression. Et donc la musique et la danse sont des échappatoires pour les Américains. Donc ils sont assez nombreux à participer à de grands concours de danse qui leur permettent à la fois de se changer les idées, et aussi de gagner de l'argent en fait. Donc là je vais vous décrire un petit peu à quoi ils ressemblent.
Ouais,
on peut d'abord aussi dire qu'il fait tout à fait penser au livre de Horace McCoy qui s'appelle On achève bien les chevaux, et qui traite de ces concours de danse assez presque assez inhumain en fait, on peut le dire. Donc, quand on regarde ce tableau, on peut voir les participants qui dansent au milieu. Donc, pour la petite anecdote, en fait, ces participants pouvaient danser pendant des heures, des jours et même des semaines dans l'espoir de gagner un chèque. En haut du tableau à droite, on voit d'ailleurs une main squelettique qui tend un billet de 1 000 $ au-dessus des danseurs. Donc, ils pouvaient prendre une pause de 15 minutes seulement toutes les 45 minutes. Donc, on imagine l'état de fatigue qui devait régner parmi ces danseurs. Donc, en dessous de cette fameuse main, on voit des personnages éreintés. Au premier plan, la danseuse a la peau verdâtre, les muscles saillants. Son partenaire essaie de la faire tenir debout et tout autour, les danseurs s'évanouissent. On remarque d'ailleurs que dans tous les couples, on a un des deux danseurs qui essaye un peu de retenir l'autre, de le réveiller pour pas perdre sa place dans le concours. Donc, les danseurs ici sont représentés comme des bêtes de foire. En fait, Philippe Evergood montre une facette assez sombre en fait, et ironique de ces concours où le public qu'on voit autour appréciait regarder un peu la souffrance de ces danseurs qui dansaient jusqu'à l'épuisement. On peut d'ailleurs voir autour du public les bras d'une femme qui a l'air fortunée avec un énorme bracelet au poignet et puis à côté un homme qui fume un cigare et qui est en train de les applaudir. Donc voilà, c'est vraiment une exposition. Enfin, une œuvre qui est fascinante.
Je comprends effectivement que tu as apprécié cette œuvre parce qu'elle est assez étonnante. Elle a un format donc vertical,
oui.
Ce qui attire l'œil, d'autant plus que sur une danse, on aurait pensé plutôt un format de frise, donc allongé. Et là, justement, on a le peintre a choisi de condenser vraiment ce sens giratoire en fait, de circulation des différents danseurs. Donc on a au premier plan en plus des membres, enfin des corps démembrés, oui. Des postures complètement difformes. Donc c'est vrai que c'est une œuvre assez étonnante.
Oui, il y a les visages
presque
des
graphiques aussi.
Oui, c'est vrai.
Il y a des techniques assez bluffantes dans cette troisième pièce.
Et après, on reconnaît à Aaron Douglas, j'ai tout de suite reconnu de loin un de ses tableaux et qui est exposé en ce moment aussi à l'exposition The Color Line, les artistes africains-américains et la ségrégation au musée du Quai Branly, dont on a reçu le commissaire.
Monsieur Daniel
Tutif,
absolument.
Voilà, exactement. Donc, vous voyez, la boucle est bouclée. Agathe ?
Mais je voulais parler après de cette salle où on a la salle des cauchemars, moi, parce que je pense qu'elle vaut juste le coup.
Elle est très étonnante. Enfin, esthétiquement,
elle est tout à fait épouvantable. C'est des œuvres complètement effrayantes. Je crois que j'en ai jamais vu autant condensées dans une même salle.
Mais je crois que, enfin, je pense que tu vas peut-être en parler, mais moi, celle qui m'a marqué le plus, dont j'aimerais parler après, c'est Philippe Guston, Bombardement.
Ah, alors très bien, il y a celle-ci effectivement qui est tout à fait étonnante avec ce format de tondo rond.
Ce tondo, exactement. Donc tondo, c'est donc un tableau rond, hein, comme est souvent réservé
à la peinture religieuse, avec Raphaël et la Sainte Famille par exemple. Et là, inversement total.
Exactement, et en plus c'est inspiré de Guernica, donc du Guernica de Picasso, donc on se rappelle tous cet énorme format.
Enfin, pas inspiré du Guernica de Picasso, mais qui aborde le même sujet.
Oui, qui aborde le même sujet, mais il n'a pas
le bombardement de la ville.
Oui, enfin donc c'est le bombardement de Guernica, et on a une espèce de perspective complètement folle où les enfants explosés par la bombe sortent vers nous. Non mais je rigole, mais c'est affreux.
C'est tout à fait étonnant, oui.
On dirait aussi qu'ils sont aspirés, en fait, quand on voit comme ça, fait un tourbillon. C'est vrai que c'est assez fascinant, ça attrape tout de suite l'œil, en fait, cette perspective.
Puis ouais, elle est au centre, donc on tombe quand même dessus. Et toi, c'est quoi qui t'a marqué dans cette salle?
Moi, c'était Eternal City, Agathe, de Peter Blume, avec la tête de Mussolini, de Benito Mussolini, qui sort d'un jeu pantin, complètement verte, dans un paysage avec un Christ décharné. C'était un combo d'images assez sensationnel.
Et puis c'est aussi, c'est la période où on voit que tous les conflits, etc.
On voit que les peintres américains sont
ils s'engagent assez, progressivement, quoi.
Des désastres qui se passent en Europe. Mais pour certains aussi, ce sont des Européens qui ont émigré aux États-Unis.
Oui, parce qu'on avait déjà vu d'ailleurs les échanges pour l'exposition sur le Mexique.
Oui.
Les voyages en Europe, etc., entre les artistes. Et dernière salle, donc c'est la salle du cinéma des années 30, justement, avec le magicien d'Oz. Voilà, qu'est-ce qu'on a à dire? Donc plein d'extraits. On voit quand même que c'est très étonnant, parce que on parle de l'âge d'or du cinéma américain, et alors que c'est une période assez sombre. Assez sombre. Bon, cette expo, vous diriez quoi?
Ah bah moi,
on y va, hein?
Il faut y aller.
Absolument. Complètement.
Il faut essayer d'y aller quand il n'y a pas trop de queue, mais vraiment, elle vaut tout à fait le coup. Et elle est assez courte au final, et ce qui est très, très agréable, parce qu'on peut y passer du temps devant chacune des œuvres.
Oui, puis elle est très représentative en fait, de la société de l'époque. On n'a pas juste une simple vision, on a vraiment les dérives, mais aussi tout ce qui a fait l'âge d'or du cinéma, la période un peu plus axée sur tout ce qui était machine, comme on disait au début. Enfin, c'est vraiment un bon condensé, je dirais, de la société de l'époque.
La peinture américaine des années 30, The Age of Anxiety, est donc présentée jusqu'au 30 janvier au musée de l'Orangerie. Et Marion, tu nous parles d'exposition et de littérature.
Oui, j'aimerais vous parler donc de cette exposition qui s'intitule « Tout est art, point d'interrogation », une rétrospective inédite sur Benjamin Vauquier, plus connu sous le diminutif Ben. Elle est accessible...
On a tous su du Ben sur nos agendas, pardon. Voilà.
Oui. Donc on peut voir cette expo jusqu'au 15 janvier, donc il faut y aller rapidement. Elle inaugure la réouverture du musée Mayol qui était fermé depuis 2015. Donc, comme tu l'as bien dit, Ben, la typographie, nous la connaissons. Donc nous avons une écriture sans majuscule, ni ponctuation, blanche sur un fond noir. Et avec des phrases drôles ou des drôles de phrases, je ne sais pas, le futur c'est moi, programme de vie, année légendaire ou génie caché qu'on peut retrouver sur les agendas. Cet esprit un tantinet provocateur, ironique et plein d'ego se retrouve donc dans cette exposition où l'artiste nous invite à interroger la définition même de l'œuvre d'art. On peut y trouver des aphorismes tels que « l'art est autre chose que l'art »,« les artistes se donnent trop d'importance »,« l'art est inutile, rentrez chez vous » ou alors « regardez ailleurs ». Ben explique son geste d'artiste en s'inscrivant dans l'histoire des arts. Il désire mêler l'art et la vie et faire du nouveau dans l'art. Il explique que dans les années 1950, l'abstraction s'était finie et il voulait ramener la réalité dans l'art. Et c'est ainsi qu'il utilise l'objet de tableau, non pas pour y peindre quelque chose, il admet d'ailleurs être un piètre peintre, mais pour y inscrire des contenus linguistiques qui font sens et s'approchent du réel. Pour lui, l'art est en dehors du tableau et du musée, il se passe dans la rue et dans chacun de nos gestes. L'art est partout, il est ce qui choque, il est ce qui vient, ce qui n'a jamais été, et il est par essence nouveau. Dès lors qu'on entre dans le musée, en fait, Ben nous pousse à y sortir. Proche de l'absurde, en allant du comique au cynisme, il fait de la vie un art. Mourir est une œuvre d'art, tout comme manger des spaghettis au milieu d'une route, se couper la moitié de la barbe, regarder les passants, et j'en passe. Selon Michel Onfray, il montre ce qu'est l'art après le beau. La dernière salle du musée offre une carte blanche à Ben, qui expose alors un capharnaüm organisé, plein d'objets de sa création et de vidéos explicatives de lui-même. Il faut dire que Ben ne jette rien et collectionne tout. On en sort amusé et interrogateur. L'art est-il une affaire de nouveauté ? L'œuvre d'art est-elle liée vraiment à l'ego de l'artiste ? N'est-ce pas aussi une question de sensibilité de réception ? Bon, cette question qui taraude l'humanité depuis l'Antiquité n'aura jamais une seule réponse. La position de Ben est discutable car extrême, mais c'est ce débat-là qui est intéressant et allez-y pour vous faire vous-même votre avis.
Oui, finalement, qu'on aime ou pas, il a le mérite de soulever quelques questions.
Voilà, après. Et surtout, c'est très accessible, c'est vraiment très amusant. Donc, bon.
Après, génie ou imposteur, moi, je me demande toujours
s'il
s'agit de Ben, mais il joue sur ça aussi. Donc,
exactement.
C'est intéressant. Alors, pour conclure l'émission, comme chaque mois, on fait un tour de table de nos coups de cœur. Alors, ce mois-ci, il n'y a pas beaucoup de coups de cœur. Finalement, ce sera plutôt Agathe et moi qui...
C'est entre nous deux.
Qui en avons choisi. Voilà, le match se joue entre nous deux. Donc, moi, je commence.
Tu commences ?
Ouais, allez. Je commence. Alors, moi, du coup, j'ai deux coups de cœur. Je fais un peu... Mais j'arrivais pas à choisir entre les deux émissions. Entre deux expositions. Et du coup... Voilà, j'en ai choisi deux. Alors, la première, c'est la carte blanche à Tino Segal, qui est en ce moment au Palais de Tokyo jusqu'au 18 décembre. Faut que je fasse un petit historique rapidement, mais vous comprendrez pourquoi. Moi, j'ai connu Tino Segal il y a 4 ans à la Documenta de Cassel. C'est un événement qui a lieu tous les 5 ans. Donc, c'est là où j'avais d'ailleurs vu les œuvres d'Etel Adnan pour la première fois. Et il y a plein d'endroits dans la ville avec des spectacles, des œuvres, des projections. Et donc, pour Tino Segal, je suis rentrée dans une salle noire qui était pleine de gens, mais je m'en suis rendu compte finalement quand ils ont commencé à parler et à chanter. Je me suis retrouvée à danser avec un... Je suppose que c'était un homme, mais ça pouvait être une femme. Mais c'était un moment très bizarre. Et je suis ressortie, voilà. Donc c'était ma première interaction avec Tino Segal. Après, je me suis beaucoup renseignée sur cet homme qui m'intriguait énormément. Il est connu pour l'exposition qu'il avait fait au Guggenheim il y a des années où rien n'était présenté. Il n'y avait aucun objet, aucune œuvre présentée, seulement des acteurs qui venaient parler aux visiteurs. Et finalement, l'interaction se fait, enfin, l'exposition se fait dans l'interaction avec ces acteurs. Et ça rentre aussi dans la mouvance de, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de l'esthétique relationnelle qui avait été théorisée par Nicolas Bourriaud dans les années 90. Nicolas Bourriaud, ancien directeur du Palais de Tokyo, qui est justement, donc, toutes ces œuvres un peu interactives ou avec de la vidéo, qui essayaient de remettre au centre du musée l'interaction entre les visiteurs et l'œuvre. Donc Tino Segal, c'est à la fois un chorégraphe et un metteur en scène. Et donc, ce que je peux juste vous dire, c'est que voilà, quand j'ai appris qu'il allait être exposé au Palais Tokyo, je me suis un peu demandé ce que j'allais vivre. Et je peux pas vraiment vous raconter, c'est une expérience, c'est un cheminement à vivre, mais c'est très intéressant. Ça nous pousse un peu dans nos retranchements. Et bien sûr, rien n'est exposé. Voilà, donc c'est à voir jusqu'au 18 décembre, allez-y.
Et quel est ton deuxième coup de cœur alors ?
Alors, mon deuxième coup de cœur, c'est à la Monnaie de Paris, en ce moment, pareil, jusqu'au 8 janvier. Et l'expo s'appelle Not Afraid of Love, de Maurizio Cattelan. Et en fait, voilà, donc il y a un cheval suspendu dans les airs, un autre la tête dans le mur. Les recoins révèlent beaucoup de choses dans l'œuvre de l'artiste italien Maurizio Cattelan, qui est un artiste très étonnant, qui n'a pas eu de formation académique. Il s'est fait connaître par des œuvres très déroutantes, comme Agathe, ce dont tu me parlais juste avant, donc ce pape qui est affalé par terre et qui a été frappé par une météorite, qui est dans l'exposition. Ou ce jeune garçon à genoux, et en fait on se tourne, on voit qu'il a le visage d'Hitler. Et Maurizio Cattelan, il joue avec les perspectives, plutôt avec les perceptions, mais avec les perspectives aussi. Tous ces personnages sont grandeur nature en cire. Il nous laisse lire dedans un peu ce qu'on y veut. Et à mi-chemin entre narcissisme et manque de confiance en soi, il se prend beaucoup en autoportrait. On le voit dans un cadre italien censé contenir une familia italiana. Et lui, il est en train de faire un cœur avec ses mains, donc un peu en mode selfie. En mode selfie, je ne savais pas qu'un jour je dirais ça, mais voilà. Il a même percé un trou dans le sol d'une des salles pour y passer sa tête. Donc c'est un petit Maurizio de cire qui est devenu cambrioleur. Et c'est très étonnant parce qu'il est toujours dans l'humour, mais on ne sait jamais si on doit vraiment le prendre au sérieux, comme ces tampons qu'il a laissés dans la boutique pour qu'on garde un souvenir de ses œuvres. Et il y a quelques années, il avait fait une dernière exposition en annonçant qu'il s'arrêtait au Fête de la Gloire, et là, il revient. Donc on ressort avec un certain malaise, ne sachant pas si l'homme, finalement, est un vrai génie ou un imposteur. Et toi, Agathe ?
Moi, mon coup de cœur, c'est pour l'exposition Léon Bakst, qui se tient à l'Opéra de Paris. Alors certainement parce qu'il a été un peintre décorateur, hein, qui a travaillé pour l'opéra, pour faire des décors, des costumes, de plusieurs chefs-d'œuvre d'ailleurs. Aussi certainement parce que c'est celui qui est le maître de Chagall, qui a si bien recouvert le plafond de Le Neveu, qui se trouve donc dans la salle des spectacles. Alors on voit d'ailleurs une lettre autographe, hein, de Chagall qui rend hommage à son ami qui est récemment disparu. Vous verrez que l'exposition se trouve dans la rotonde de l'Empereur et qu'on y voit des œuvres de Lev Rosenberg, qui est en fait le Léon Bakst avant 1889, date à laquelle il prend ce nom-là. Et elle propose de retracer l'activité aussi bien de cet artiste peintre-décorateur à travers de très belles aquarelles, assez grandes d'ailleurs, des décors d'opéra, mais aussi à travers des costumes et ses liens avec l'univers de la mode. Parce qu'il a travaillé aussi, par exemple, pour la maison Paquin. Jeanne Lanvin s'est inspirée de ses créations pour faire des collections. Donc on a ce télescopage du monde de la mode qui s'intéresse à ces avant-gardes artistiques et historiques, puisque Léon Bakst se révèle finalement au public français avec les spectacles des ballets russes, la compagnie Diaghilev. Et on a l'occasion, avec ce billet qui permet d'aller voir l'exposition temporaire, de visiter en visite libre en fait tout l'Opéra de Paris et d'y voir aussi les collections du petit musée qui sont dans une des galeries.
Voilà. Merci, eh bien, nous irons. Museum Side, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Sébastien Delot et à vous les filles, Agathe, Marie-Hélène et Marion. Merci également à notre réalisateur Julien. Merci de nous avoir suivis sur le 93.9 FM et sur Internet. Si vous voulez retrouver toutes les infos sur les différentes expos dont nous avons parlé, n'hésitez pas à aller sur notre page Museum Side, sur le site de Radio Campus Paris, et suivez-nous sur Facebook et sur Twitter. On vous retrouve le dimanche 8 janvier à 20h au programme l'exposition Arnold Schoenberg, peindre l'âme, au musée d'art et d'histoire du judaïsme, et Bernard Buffet, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.
On commence avec le mot du conte de l'autre amant. Bon, comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection.
Museum Side.
Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais, en aucune façon un lieu de décor, et disons-le tout de suite, en aucune façon un musée.
Museum Side, c'est l'émission de critique d'art de Radio Campus Paris.
Vassily Kandinsky est exposé au troisième étage à côté de Malevitch, comme il se doit.
Ceci n'est pas un musée.
Ah, donc si je trouve Malevitch, pour Kandinsky, je brûle.
On parlera d'exposition, d'art.
Ce qui donne un art à une société, dit André Gide, c'est le besoin qu'elle en a, et non une compréhension plus ou moins grande.
On va se balader dans Paris, de musée en musée, toujours en compagnie d'un invité.